ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois avec énormément de plaisir et de fierté, je dois te le dire, Fred Aubert, qui était mon professeur, mais on vous racontera tout ça. Donc le survolté Fred Aubert, hyper énergique. On va essayer de le contenir aujourd'hui dans le canapé. Ceux qui l'ont eu en tant que formateur parmi les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent savent qu'à tout moment, il peut partir en salto. Donc merci pour cet exercice de style et puis surtout, merci d'être là, Fred.
Écoute, le plaisir est totalement réciproque car on est dans une logique de partage et d'échange. Et quelque part, l'outil que tu me proposes d'utiliser aujourd'hui est dans mes valeurs. Et donc, vas-y, je te suis tout oui, tu peux me passer à la moulinette. On va parler de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui est passion pour de beaux échanges.
Alors, comme je vous le disais, je suis pas peu fier de le recevoir. D'abord parce que c'est ce que je lui disais tout à l'heure avant l'épisode en coulisses. Je lui disais, voilà, tu es celui qui m'a transmis une chose essentielle dans mon métier. C'est le feu sacré. Voilà, donc il est porteur de la flamme du feu sacré pour moi, Fred Aubert. Et cette flamme, il l'a portée dans pas mal de sports. Hein. Je vais vous les lister très rapidement. Évidemment, l'athlétisme, son sport de naissance. Mais ensuite, ça a dérivé très vite vers le sport professionnel avec le rugby ouais. Au Stade français. Et puis ensuite, un peu de sport individuel aussi avec le badminton. Mais retour au sport co avec le basket. Et puis plus récemment, la fédé de foot. Pour laquelle tu exerces en tant que coordonnateur, hein, je ne dis pas de bêtises.
En fait, je suis le référent, entraîneur national, référent préparation athlétique. Donc, on est au service des entraîneurs des sélections jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu du renfort avec Thomas Pavillon et Christopher Carling. Et on est aussi, au niveau des formations, à distiller de la préparation athlétique à tous les étages de la formation. Notamment, imaginez ce que c'est que la préparation athlétique des gardiens de foot. Les gardiens de but, c'est quelque chose. Il y a dans leur formation de la préparation athlétique. Quid de la préparation athlétique des jeunes en formation, du milieu amateur, des jeunes femmes, des footballeuses, etc. Donc, à la Fédération française de football, on a une architecture de diplômes très très riche. Et à tous ces niveaux, il faut dispenser de la préparation athlétique. J'aimerais rajouter le tennis dans les sports qui me passionnent et me mobilisent, ne serait-ce qu'au travers de mes deux filles qui sont négatives, moins 4 pour la dernière, et puis parce que quand même en 2004, j'ai eu le bonheur d'encadrer Richard Gasquet sur 6 mois, et le Richard, il m'a offert un titre à Roland-Garros. Alors c'est toujours le quiz, quel est le titre que Richard Gasquet m'a offert à Roland-Garros? Eh bien, le titre du double mixte avec Tatiana Golovin, ça faisait 34 ans qu'une paire mixte n'avait pas gagné. Richard avait 18 ans. J'ai un très, très bon souvenir de l'encadrement de la PA, de la préparation athlétique de Richard, aux côtés de son papa, Francis. C'est une belle famille, de belles personnes. Et je salue Richard, qui restera pour moi, on va dire, une référence.
Eh bien, vous vous en doutez, du coup, avec un CV comme ça, fatalement, on a des choses à partager, des méthodes, des concepts. On a une vision assez précise de ce qu'est la préparation physique, où on va voir le distinguo, la préparation athlétique. Et puis, je me rappelle très clairement la première fois qu'on s'est rencontrés. Je vois ce professeur de l'INSEP rentrer une tête dans notre salle en nous demandant si on était bien le Doug qui l'attendait. Et d'un seul coup, il nous a lâché le feu d'artifice avec notamment un concept méthodologique qui était, je pense, sur ses premières années de mise en œuvre, le Confitech, dont on va parler plus largement aujourd'hui. Donc, mais avant toute chose, du coup, pour être bien certain de parler le même langage, je t'ai entendu beaucoup parler de préparation athlétique. Je sais que tu choisis tes mots toujours avec précaution. Quel distinguo fais-tu entre prépa physique athlétique et prépa physique, prépa athlétique pardon et prépa physique?
Oui. Alors on va faire une thèse simple et c'est une vision, une façon de penser qui n'a d'objectif que de donner à nos collègues préparateurs athlétiques une identité de potentialité. C'est-à-dire qu'on est réducteur si on parle de préparation physique, on est réducteur et trop générique, car on a une vision à ce moment-là du traitement des qualités physiques pour elles-mêmes, en tout cas posées, évaluées, pour ce qu'elles sont. La détente verticale, l'explosivité en concentrique, le sergent de test, le son longueur sans élan, la force maximale, le 1RM dans les différents ateliers, la souplesse mesurée en angle d'ouverture articulaire, la VMA, est-ce que tu choisis le Cooper, le Buchette, le Gacon, le Vameval, le Tube 2, que sais-je encore. Alors que dès que tu es au service d'un sport, préparateur physique au service d'un sport, tu deviens un préparateur athlétique, car tu y ajoutes deux choses essentielles. Rappelons que athlétique ne veut pas dire athlétisme. Ce n'est pas le saut à la perche, le triple saut, le lancer du marteau et les relais. Athlétique vient du terme grec athlos, athlon, qui veut dire tout simplement combat. Ah, le décathlon, c'est 10 combats. Et donc, lorsqu'on est préparateur athlétique, on traite les qualités physiques en vue de combat qu'est fatalement la confrontation en compétition. Et la deuxième touche, c'est la motricité. Et là encore, la motricité athlétique, ce n'est pas de la motricité de l'athlétisme. C'est une motricité humaine, technologique, qui fait que toute technique de locomotion sportive dépasse la motricité usuelle. Et donc, on exprime des qualités physiques au travers d'une motricité pour servir un combat. Ça fait de nous des préparateurs athlétiques.
Le distinguo est très très important parce qu'effectivement, si on prend le terme tel qu'il résonne dans notre univers tout de suite comme ça, on s'imagine tout de suite que c'est l'héritage de l'athlétisme. Or, il n'en est rien. C'est vraiment une dimension d'intention et de finalité à notre action.
Absolument. Le terme athlétique étant dans le domaine public des ressources au service d'un autre sport. Et non pas, il faut pouvoir faire ce distinguo en termes de sémantique, c'est pas de l'athlétisme. Athlétique est bien, bien plus que de l'athlétisme au service des autres sports. Voilà.
Ouais, je pense que c'était vraiment important de faire ce distinguo au-delà de l'appellation que choisiront d'utiliser chacun de nos collègues. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont tous nous rejoindre sur la philosophie combative, le transfert. Et du coup, c'est clairement ça que tu sous-entends, là. C'est la notion de transfert vers la discipline.
Exactement. Tu as raison, Aurélien. C'est comment les qualités physiques sont médiées par une motricité au service d'un autre sport. Alors, bien évidemment, je ne vais pas parler de motricité athlétique au water polo en tant que tel. Même si on se retrouvera, toi, l'haltérophile et combattant dans différentes disciplines, et moi, l'athlète au service d'autres sports, en se disant, ben oui, mais de toute façon, il faut se mouvoir dans l'eau. Il y a des combats, et Dieu sait qu'il y en a, sous l'eau, des combats dans le water polo. Mais c'est pour dire que, s'agissant d'un véliplanchiste, je ne vais pas prôner la préparation athlétique. Eh bien, peut-être, parce que le véliplanchiste va faire de l'haltérophilie pour améliorer son pumping. Il va trouver dans les mouvements semi-techniques de quoi être plus performant pour la liaison de sa planche et de son gréement. Donc, quelque part, athlétique, gymnique, haltérophile, c'est une dimension qui sert le combat en traitant les qualités physiques au travers de motricité. Ça me va vraiment. Et ça fait de nous des préparateurs athlétiques qui ne sont pas obligés d'avoir été des entraîneurs d'athlétisme pour l'être. Mmh. Ça aussi, j'y tiens. Il n'est pas nécessaire d'avoir été entraîneur d'athlétisme pour être un préparateur athlétique. Ça n'a rien à voir quelque part.
Mmh. C'est juste une origine étymologique. En aucun cas historique et méthodologique.
Voilà.
Et il se trouve que, bien évidemment, sur les sports à locomotion de course, on va s'inspirer largement des contenus athlétiques, mais de même que, comme tu le disais, sur les sports à triple extension ou triple flexion, on va s'inspirer des poids et haltères ou des disciplines à forte mobilité dans la verticalité.
Voilà, c'est dit. On peut passer à la Confitec.
Si on peut passer à la Confitec. Ouais. Alors peut-être avant de passer à la Confitec, du coup, moi, ça fait écho au concept, un concept que je combats un petit peu depuis quelques années. Probablement depuis que je te connais, c'est le concept de PPG. j'ai encore une phrase qui fait écho. La prépa physique, spécifique ou n'est pas, elle est pertinence ou perte de temps. Qui c'est qui a dit ça?
Oui, bah, c'était pour enfoncer le clou. C'était pour enfoncer le clou. Bah, du coup, toi, ça fait vraiment lien avec ce que nous avons dit avant. Car si on amène la dénomination de notre métier à la dimension préparation athlétique, on en a terminé avec la PPG, qui est du générique, mais qui est aussi daté. C'est-à-dire que la PPG nous a rendu service au moment où on ne pensait pas à une approche physique, on va dire, extraite du sol spécifique. Donc la PPG nous a servi, c'était un concept qui a marché un temps.
C'est l'ère une de la préparation physique. Il a fallu, à un moment donné, poser des bases.
Voilà. Bah ouais, je veux bien. C'est l'ère une dans toute histoire, dans toute échelle de temps. Il y a comme ça, il y a du Jurassic Park, il y a du Néolithique et tout. C'est l'ère une de la préparation physique. C'est la PPG, bien évidemment. Mais très vite, le terme devient obsolète et infécond dès lors qu'on est dans toujours une urgence de temps par rapport au fait qu'il n'y a pas tant de temps que ça avant les premières compétitions dans les sports collectifs. Hein, l'intersaison est très courte. Et puis, il y a aussi le fait que pourquoi perdre du temps dans la formation du joueur, du combattant, du nageur, du joueur en sport de raquette. Tout de suite se pose la question du transfert, de la pertinence, de l'adéquation au service des contraintes et exigences d'une discipline. Donc la PPG, ça ne peut pas le faire, quoi.
Ça y est, on a le terreau, le contexte à ton état d'esprit face à la pratique. Et donc, in fine, ce qui se cache un peu derrière Confitech que tu vas nous expliquer.
Alors, ce qui est toujours plaisant, c'est lorsque on lance un concept méthodologique qui est en fait plus une grille de lecture que une méthode nouvelle. C'est surtout pas une méthode nouvelle, mais c'est une grille de lecture. Et il y a résonance chez des collègues. Je pense à un collègue dans le tennis qui a été un temps DTN et qui a rebondi sur le concept de Confitech. Moi, j'ai un ami, c'est Frédéric Dodin, le papa de Océane Dodin, dans le Sud. C'est vraiment un ami parce qu'en plus, on a les mêmes valeurs dans tellement de domaines. Et alors, méthodologiquement, lui, Confitech, ça lui parle. Alors, là, tu es renforcé dans cette vision. Conditions physiques et techniques. Conditions physiques et techniques. Le simple fait de se dire j'ai de la condition physique dans ma tâche, dans la réalisation de ma tâche, dans le technique, déjà, on est au cœur des problématiques de transfert. Pour y arriver, eh bien, ça nous oblige d'entrer à un décodage paramètre par paramètre, secteur par secteur, facteur par facteur, le décodage de la discipline pour laquelle on va engager de la préparation athlétique. Et là, c'est passionnant parce que bon, nous avons en commun, à travers les âges, ce qu'on a en commun aussi, c'est qu'on est des STAPSiens. On a une formation STAPS. Et j'ai toujours dit que science et technique des activités physiques et sportives, c'est la grille, le canevas d'analyse des disciplines pour lesquelles on va servir de la préparation athlétique. Voilà, ça c'est Confitech.
Alors, qui est à l'origine de ce concept? Je crois que tu n'étais pas tout seul au départ à imaginer ça.
Alors, de toute façon, c'est un concept que j'ai fait vivre et qui a donné sens, mais c'est mon ami Alain Jousselin.
C'est bien ce qui me semblait.
Ouais, entraîneur d'athlétisme à l'époque à Fontenay-aux-Roses. Aujourd'hui, je le croise au Plessis-Robinson. Entraîneur d'athlétisme dans le 91, toujours. Dans le 92, pardon. Et alors, Alain Jousselin a lancé ce terme Confitech. On y voyait des stands de montée de genoux, de gainage, de corde à sauter, de pompe, de lancer de medicine ball, de passage de haies en marchant. Et il y avait le spectre de l'athlète qui était entraîné dans ce circuit. Alors du coup, tu peux penser à des ateliers pour le judoka. J'adore, un jour, j'ai vu à l'INSEP une judoka tirer sur une poulie. Mais c'était une manche de kimono qui était là. C'était extraordinaire. Les serres d'aigle qui tiraient la manche de kimono pour faire... c'est extraordinaire. Bon, c'est pour dire que d'entrée, on peut prendre, à partir de l'analyse technologique de la discipline, on peut prendre comme ça des ateliers qui feront un plateau de Confitech et le spectre de la discipline s'impose. Si c'est un archer, si c'est un archer qu'on lui voit faire des carpés, de la corde à sauter, du trampoline, du rampé, on se dit, on se trompe. Il est où l'archer, là? Par contre, si c'est des placements bien solides, si c'est de la proprioception, si c'est du gainage à la verticale, si c'est peut-être des choses les yeux fermés, les yeux ouverts, et je vais m'arrêter là, parce que je ne suis pas un préparateur athlétique du tir à l'arc. Mais c'est pour dire que dans un circuit ou un plateau d'atelier dit Confitech, on doit voir s'imposer le spectre de la discipline du sportif qui le fait. Et du coup, on peut avoir comme ça des moments de Confitech en entrée, en sortie, en milieu de séance. Après, c'est comme les gousses d'ail dans le gigot, ça se met au gré de ce qu'est ton entraînement. J'ai beaucoup communiqué là-dessus et je compte bien faire un livre qui sortira chez Cress Sport, chez Fortrainer de chez Cress.
De chez Cress, ouais, voilà, les deux sont liés absolument. Voilà. Tu connais bien ton environnement. Alors, du coup, je lis un peu entre les lignes parce que je t'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup suivi ce concept-là. Je me permets de préciser quelque chose et tu m'arrêteras si je dis une bêtise. Ça me permettra de savoir que j'ai mal compris ce que j'ai lu. Mais il me semble qu'il ne s'agit pas de singer la discipline. Il ne s'agit surtout pas de travail tout intégrer lesté ou de reproduire systématiquement le mouvement. Je prends toujours l'exemple complètement absurde du boxeur qui va boxer avec des poids de 20 kg dans chaque main. L'idée,
oh oui,
hein, qui déformerait finalement, ouais, sa, ouais, propre pratique en essayant de la singer bêtement. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose de plutôt orienté, en fait, de diriger vers, par la spécificité mécanique, d'intention ou éventuellement physiologique, pas nécessairement de forcément reproduire le mouvement tel qu'il est.
Voilà. Voilà. Je vais donner un exemple avec un coureur de haies. Le coureur de haies peut avoir un atelier de passage de haies en marchant, mais les haies vont jusqu'au niveau de son entrejambe, de son enfourchure, donc ça l'oblige vraiment à faire des grands mouvements d'amplitude. Il est là en souplesse active, mais il les fait en marchant. Il peut ensuite prendre sa corde à sauter. Corde à sauter, il y a 10 haies à franchir, 4 appuis. Il peut très bien faire des enchaînements de 4 appuis en montée de genoux avec sa corde, syncopé de double tour et faire ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, double tour. 1, 2, 3, 4, double tour. 1, 2, 3, 4, double tour. Là, on est dans la Confitech parce qu'il colle aux paramètres, on va dire, du nombre d'impulsions et à la dynamique. Mmh. Et pourtant, il fait de la,
il fait du saut à la corde. Il pratique bel et bien la corde à sauter.
Voilà, c'est ça.
Et pour autant, on a modelé cette pratique-là à la finalité.
Voilà, ça c'est de la Confitech. Parce qu'on peut, avec une corde à sauter, tourner pendant 6-7 minutes. On recherche autre chose. Lorsque je travaillais avec les joueurs de badminton, d'ailleurs une discipline qui m'a très très bien reçu, je garde un très bon souvenir de mon passage dans le badminton, on m'expliquait combien de doubles tours faisaient les Indonésiens. Les Indonésiens faisaient des doubles tours, mais ils dépassaient la centaine. Je dis, ouais, mais pourquoi? Eh bien, en fait, il y avait une raison. C'est que tu calcules, dans un match, tu peux aller jusqu'à 1000 impulsions. Un match de badminton, ça peut atteindre 1000 impulsions si on compte les pas de recul, de saut, de réception, de côté, de fente. Ben, on voit bien que, ben oui, là où j'aurais limité à des séquences de 10 fois 4 montées de genoux, un double tour chez un coureur de haies. Une course de haies, c'est 13 secondes, plus ou moins 4 dixièmes. Un joueur de badminton, c'est tout de suite des doubles tours par centaine, quoi.
Ouais. Voilà. Alors c'est hyper intéressant comme exemple. Je vais prendre la balle au bond parce que très clairement, le saut à la corde est particulièrement à la mode dans une discipline dont tu entends beaucoup parler, le crossfit.
Oui.
On appelle ça, il faut parler en anglais, on appelle ça le double under. Et souvent, on me pose la question de savoir est-ce que le crossfit est de la prépa physique, de la prépa athlétique. Est-ce que ça peut l'être? Alors, première question, non, ce n'est pas de la préparation physique. Est-ce que ça peut le devenir? Oui, si on se met à cadrer les différents ateliers qui sont à notre disposition dans un circuit de CrossFit pour qu'ils prennent sens au vu de ce que l'on prépare. Donc effectivement, bah, dans un atelier de CrossFit, on a de la corde à sauter, des exercices gymniques, des exercices athlétiques, issus de l'athlétisme, et des exercices haltérophiles. Donc avec tout ça, on arrive éventuellement à constituer un circuit, comme tu l'appelles, Confitech, mais pas de manière complètement aléatoire et pas de manière égale pour tout le monde. C'est-à-dire que clairement, le double under du joueur de badminton n'est pas celui coureur de 110 voilà. mètres. Ouais.
Exactement. Ah bah sur le crossfit, si je laisse aller mon fiel, je pense qu'on va perdre quelques auditeurs. Parce que ça, c'est quand même à la mode. Hein, voilà.
C'est très, très à la mode. C'est
à la mode. Bon, moi, je voudrais simplement resituer. Le CrossFit, c'est jamais que le concept du circuit training. D'abord, le circuit training, il existe. Un atelier sur une durée et une durée de repos qui permet de passer d'un atelier à un autre. Et on enchaîne comme ça. C'est le circuit training. On sollicite différentes cibles du corps. On décide avec alternance haut du corps, bas du corps, tronc, haut du corps, bas du corps, tronc. Et là-dedans, j'aime beaucoup comment tu rebondis, on doit retrouver la discipline pour laquelle ce circuit training est fait. Après, ça a été récupéré par une franchise américaine. Les Américains, ils font rien mieux que nous. Excepté une chose, mettre beaucoup de moyens dans ce qu'ils décident de faire. Regarde le débarquement en Normandie. On le sera reconnaissant jusqu'à la 10e génération. Mais c'est tout. En termes de finesse méthodologique, c'est des billes. Ils récupèrent ce que l'on fait. Et donc, là, on est arrivé dans un truc, il faut brûler. Alors, il faut brûler. Donc, il n'y a pas de repos, contrairement au circuit training qui, lui, voit une alternance. On enchaîne, on brûle, on brûle, on brûle, on brûle. Et c'est vrai, on brûle bien à ce truc-là. Mais le problème, c'est les malfaçons, les fautes d'exécution, dans cette frénésie de faire du volume pour du volume. Et ça me dérange beaucoup. Voilà.
Bah, c'est pour moi une des différences fondamentales entre le CrossFit et la préparation physique. Alors après, le CrossFit est effectivement un sport mutant qui progresse aussi en termes de pratiques techniques et d'exigences techniques. Donc ils avancent de plus en plus vers quelque chose de plus en plus qualitatif et sécuritaire.
D'accord.
Mais néanmoins, je suis d'accord avec toi, tant qu'on ne maîtrise pas sa charge complètement, on n'est pas dans le registre de la préparation athlétique.
Non.
Et maîtriser sa charge, ça veut dire contrôler en termes de quantité le nombre de reps, le nombre de séries et le volume global de travail. En termes de qualité, le répertoire gestuel que l'on va choisir et comment on va l'orienter.
La fameuse motricité athlétique au service de.
Exactement. Mmh. Et enfin, la récupération. Ah. Et c'est là que du coup, on est obligé de vraiment... pour moi, le CrossFit, c'est une pratique fantastique, mais qui est un cheval fou. Lâché, hors de contrôle. Et c'est sans doute ce qu'on va chercher en pratiquant le CrossFit. Nous, ce qu'on cherche dans la préparation athlétique, c'est de dompter le cheval.
Absolument.
Et du coup, c'est là que des outils comme Confitech vont, à mon avis, donner énormément de sens. Alors justement, si on revient sur la construction de Confitech, j'imagine que tu t'autorises tout, tu ne te mets aucune limite dans les temps de récupération, dans la gestion du temps de travail, au regard de ce que tu cherches à accomplir in fine.
Attention, je ne m'interdis pas, c'est-à-dire que je veux coller à la discipline.
C'est ça. Hein,
c'est-à-dire que si on prend l'exemple du tennis, le nombre de déplacements que l'on peut faire sur un step, avec éventuellement des réceptions et jetées de medicine ball, ou bien carrément avec la balle, c'est toujours possible de faire du boogie-woogie en déplacement latéral sur un step, et d'arriver, envoyer une balle à droite, envoyer une balle à gauche, envoyer une balle à droite, très bien. Ça, on va le caler sur des séquences de 20 secondes, sur des séquences peut-être maximum de 20 frappes. Il y a bien des rallyes qui vont au-delà de ça, mais c'est pas le plus haut volume que l'on va viser d'abord. Donc, on va comme ça se caler à chaque fois sur des paramètres que l'on connaît de la discipline. Le temps moyen d'un échange, le nombre de frappes moyen d'un échange, etc., etc. Et ça construit la charge de travail. C'est pourquoi je reviens, qu'est-ce que tu disais derrière l'idée qu'on ne se donne pas de limite de temps et de volume ?
Ce que j'essayais de dire, c'est qu'on n'est pas comme sur une méthode, comme, je ne sais pas moi, le Tabata ou des méthodes extrêmement cadrées où on dit voilà, ici c'est 20-10. C'est comme ça que ça se passe.
Non, d'accord.
Surtout
bien
pas.
Vu. Bien vu, Aurélien. D'accord. Non, c'est tout à fait ça. Parce que de toute façon, si tu passes du squash au badminton et au tennis, déjà, le modèle de charge et de dynamique micro-méthodologique par exercice va changer. Va changer. Comme du 400 mètres haies au 110 mètres haies va changer. Donc, c'est ça. On se donne pas. C'est moins qu'on se donne pas de limite, on n'a pas de carcan. Et si carcan il devait y avoir, c'est simplement circonscrit par les paramètres de la tâche que l'on connaît. Alors là où c'est vivant, c'est qu'effectivement, quand tu regardes du tennis à l'époque de Yannick et de Björn Borg, tu te dis, mais ils sont sur slow motion ou quoi là ? Tu vois ? Et c'est normal. Et respect, avec les raquettes qu'ils avaient, petit ami, bois et tout, c'était un tennis de l'époque. Il faut toujours respecter les époques. Mais toujours est-il que on peut pas, je ne ferai pas de la Confitec, j'aurais pas fait de la Confitec en 1983, de la même manière que je la ferai aujourd'hui.
Évidemment.
Et ça, pour toutes les disciplines. Et ça, c'est passionnant. On retrouve alors un des principes de l'analyse de la discipline, c'est la réactualisation, la réindexation des paramètres au regard de ce que les adversaires font, le niveau, comment il monte, les méthodes, les données scientifiques, les recherches, les dernières données, les dernières data. Tout ça, ça nous bouge. En football, ce qui est fabuleux, c'est les données physiques que l'on a grâce au GPS ou au système équivalent avec vidéo. Parce que là, le kilométrage fait dans un match, le nombre des forfaits à haute ou très haute intensité, les décélérations, les changements de direction, là on a besoin de la vidéo et tout, mais ça nous alimente extraordinaire, par poste. Ce qui est magique avec le football, c'est que l'analyse par poste est d'abord en filigrane. Alors qu'elle saute aux yeux en rugby, la tâche du pilier saute aux yeux qu'elle est différente du fullback, le numéro 15.
D'ailleurs, son physique n'est pas le même.
Déjà. Mais tu vois, à la marge, entre un troisième ligne et un trois quarts centre, tu peux avoir des gabarits fort proches. Ce n'est pas les mêmes tâches. Le troisième ligne et le trois quarts centre sont... Ils ont deux joueurs qui les relient. Le 9 qui extrait le ballon du maul ou de la mêlée et le 10 qui lance la ligne arrière. Il y a deux. Et pourtant, ça peut être des gabarits assez proches, tu vois, aujourd'hui.
Ouais. Alors du coup, tu lançais l'introduction tout à l'heure sur tes travaux au football où tu parlais du poste des gardiens.
Ouais.
Donc pour les gens qui nous écoutent, j'imagine que Confitec peut même prendre autant de formes qu'il n'y a de postes en football ou dans n'importe quel sport. C'est même pas varier d'un sport à l'autre, c'est
voilà.
Le concevoir.
C'est ça, ouais. Non, c'est vraiment ça qui mobilise. C'est que tu l'as évoqué tout à l'heure, la notion de transfert, la notion de servir par la préparation athlétique, servir un projet de performance, ça va jusqu'à traiter les exigences et contraintes au poste. Plus tard, dans nos échanges, on évoquera certainement la nécessaire individualisation qui, pour un même poste, peut voir deux sujets bien différents, avec des écarts ou des profils bien différents, pouvant aller vers une tâche qu'ils vont eux-mêmes transformer. On sait qu'avec des ressources différentes, un même poste d'un sport co va s'exprimer différemment. Mais bon, prenons le volleyball. Entre le libéro, le passeur et le pointu,
c'est magnifique. Pas le même sport,
mais voilà, c'est magnifique. C'est six gars qui sont sur ce même confetti, parce que là, on n'est même pas dans un sport interpénétré. Il y a ce filet qui partage en deux le terrain, et il y a trois postes qui sautent à la figure, le libéro, le passeur et le pointu, qui font des tâches bien différentes. Nul doute que la Confitec sera un moyen de servir leur préparation athlétique avec des paramètres bien fins, de traitement. Celui qui se retrouve la gueule par terre la plupart du temps, qui se roule par terre, qui essuie le parquet, on a nommé le libéro. Hein. Celui qui est une vraie plaque tournante, une vraie tourelle de char, un vrai feu follet qui distribue, le passeur. Et puis le canonnier qui est un sauteur en hauteur, triple sauteur, tout ce que tu veux, qui est dans les airs à mettre des frappes. C'est fabuleux, quoi. Sans compter qu'ils ont chacun leur tâche de défense à un moment ou à un autre et tout. Le rugby, c'est super parce qu'effectivement, là, les postes sont marqués. Tu l'as évoqué, il y a des différences de gabarit. C'était beaucoup plus vrai au XXe siècle. Avant, ouais. Mais peu importe la différence de gabarit, en tout cas, les tâches ne sont pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Mmh. Hein. Le deuxième ligne qu'on envoie sur l'ascenseur, bam, tu sais que c'est du 4,50 m là-haut. Hein. 4,50 m quand il va récupérer le ballon. Alors que le pilier et le talonneur, ils ont la tête dans la boîte de conserve, là, dans le cesse-mêlée. Les feux follets que sont les arrières, et c'est extraordinaire. Ce que j'ai aimé dans mon passage du rugby au basket, même s'il y a eu entre-temps le badminton, et j'oublierai jamais le badminton pour ce que j'ai appris. D'ailleurs, le badminton m'a permis de me recaler à l'échelle. Parce que quand j'arrive de l'athlétisme, le rugby, pas de problème. Tu as vu le champ que c'est. Ouais. Il y a des essais de 80 mètres en rugby. J'avais en mission, aux côtés de Daniel Servet, d'améliorer la vitesse des lignes arrières. Ça va, un essai de 80 mètres, j'étais dans mon élément. Ouais. Quoi. Bon, si j'avais pas eu le badminton avant le basket...
Pour te remettre dans une boîte.
Oh là là, mais le badminton, c'est un confetti. Tu vois déjà le terrain de badminton, tu mets un filet et tu as vu ce qui reste. Hein. C'est extraordinaire. Eh bien, je t'évoque ça parce que j'ai eu l'impression, quand j'arrive dans le basket, que c'était le rugby divisé par trois. Car tu as un joueur intérieur, hein, vraiment fort, sous le panier, là, le poste 5, quoi. Bam, tu as le poste 4, qui est aussi un joueur intérieur, mais censé un peu plus mobile autour de lui. Tu as arrière et... ailier est un meneur. En 5 postes, c'est divisé par 3 ce que l'on a dans le rugby. Quoi. Et alors du coup, la menace, elle doit venir de partout. C'est ça qui est bien. C'est qu'au basketball, si ton 5 majeur, avec ses tâches différentes, au plus près du panier, sous le panier, loin sur l'extérieur, remonter la balle comme fait le meneur et tout, mais chacun peut à sa façon envoyer des paniers, le danger vient de partout. Au rugby, c'est pareil, le danger vient de partout. Lorsque, en football, je garde très frais mon passage en équipe de France féminine, quand Wendy Renard, arrière centrale, marque un but, pas forcément son coup de pied arrêté, hein, et qu'on a pressé, et qu'elle arrive à mettre une tête et tout, c'est l'arrière centrale quand même. Le danger vient de partout. Sinon, tranquille, elle reste sur sa ligne arrière, elle laisse les avants faire et tout. Bah là, tout d'un coup, c'est presque plus facile à défendre pour les adversaires. Ouais.
Donc j'imagine que tu as développé des circuits Confitech en rafale pendant toutes ces années, dans toutes ces expériences. Est-ce qu'il y a quand même des règles méthodologiques à la programmation et à la planification de ces circuits, au-delà des contenus purement techniques, pratiques ?
Ouais. Alors, il est temps là de mettre à l'aise nos auditeurs pour dire que, encore une fois, la condition physique et technique, Confitech, n'est pas une méthode nouvelle. Je pourrais, pour ceux qui nous écoutent, chacun les amener à prendre conscience que, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, le bourgeois gentilhomme de Molière, bien sûr, eh bien, eux-mêmes pourraient se surprendre à constater, mais là, je fais de la Confitech. Et d'ailleurs, il y a un entraîneur, un préparateur physique du tennis suisse, quand j'étais à Macolin, un mec super, j'ai oublié son nom, mais il avait travaillé avec l'équipe de Coupe Davis dans les années 2000. Et alors, quand il écoute mon intervention sur la Confitech, il me dit « Frédéric, regarde cette cassette, dis-moi si c'est de la Confitech ». C'était de la Confitech. Il utilisait le feedball pour rebondir, se placer et envoyer la balle. Il utilisait le medicine ball sur un step. Il utilisait la corde à sauter, les lattes et tout. C'était de la condition physique et technique parce que ce n'était pas des points de tennis joués, des formes jouées du panier. C'était véritablement des ateliers athlétiques d'expression de la motricité athlétique. Mais tu voyais le joueur de tennis dans son feedball, avec son medicine ball. Quelque part, le vortex, quand un gamin lance le vortex et que derrière, il va se jeter dans les carrés de service pour faire un WM en avant-arrière, ben, il simule le service volé. J'envoie mon vortex jusqu'dans la bâche au fond du court et je me jette vers le filet pour faire un petit parcours. C'est de la Confitech. Ouais. Donc, c'est dire ça que on fait probablement tous préparateurs athlétiques quand on est au plus près de servir la préparation athlétique d'un sport, on est obligé de faire de la Confitech. Ta question, je la prends. Eh bien, je disais aussi que la Confitech donne des moyens de faire de la coordination, de la conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicard ? Les conjonctions de coordination. Et on peut ainsi relier une séance de renforcement musculaire, faire un atelier Confitech d'une quinzaine de minutes et passer au spécifique. Ou l'inverse. Donc, à l'échauffement, entre deux sessions d'entraînement de registres différents, renforcement musculaire spécifique, au milieu du spécifique même ou à la sortie d'une séance, on peut avoir comme ça de l'assaisonnement de Confitech. Donc, je ne réponds pas tout à fait à ta question en termes de planification, mais en termes de programmation fine, ouais, on y est. Sur la planification, alors là, moi, j'y crois, parce que plutôt que de rentrer plein fer dans des sessions spécifiques quand on reprend l'entraînement en retour de vacances, la Confitech va être le moyen d'apprêter le corps, les coordinations, le neuromusculaire, d'apprêter le sportif au spécifique qui va venir. Et on coefficiente les chances de bien faire du spécifique lorsqu'on est passé par Confitech. Moi, j'en profite là pour glisser un hommage à tous les coachs avec lesquels j'ai pu travailler dans les différents sports. Là, j'ai eu une chance. Je pense qu'une fée s'est penchée sur mon berceau. Parce que je pense notamment, parmi d'autres, hein, à Pierre Vincent, l'entraîneur des braqueuses en basketball. Les gars, les entraîneurs de basket, ils réfléchissent très très fortement à amener la charge progressivement. Quand on était en préparation d'événements internationaux avec l'équipe de France, il y a un début où il n'y a pas de défense. Tout le basket qui se fait sans travailler, sans faire de la défense. Pourquoi ? Parce que être en défense en basket, ça engage les adducteurs et les fessiers graves. Et donc, eux-mêmes, en tant que techniciens, ils ont cette vision progressive. Donc, ils pouvaient même... Vincent Collet s'est même retrouvé, parce que j'ai eu le bonheur de bosser avec lui aussi, un premier match de préparation contre la Finlande à Pau Orthez, la défense n'avait pas du tout été travaillée. C'est accepter ça, tu vois. Voilà. Et donc,
c'est accepter la progressivité et donc que le produit ne soit pas fini tout de suite.
Exactement. La Confitech va aider, tu vois, travaille sur des pas chassés stoppés, des squats, démarrer pas chassés, pas croisés. Dans la Confitech, par une espèce de shadow, par une espèce de répétition de kata, comme ça, tu vas préparer à ce que, quand le travail de défense va se faire, le joueur sera prêt.
Aurélien, donc, tu ne marques pas tout à fait à la culotte les engagements techniques, les prises de risque ou les non-prises de risque techniques. Tu vas justement les dépasser un petit peu pour avoir un temps d'avance physique sur les sollicitations.
Exactement. Mais on aura compris que qu'est-ce qui chahute beaucoup les joueurs de sport collectif au début de la mise en place du spécifique, quand ils reprennent, c'est le bio-informationnel, c'est la réponse aux aléas, où là, il y a des blocages. Moi, je vais mettre en scénario les formes de corps de défense, et comme il n'y aura pas d'aléatoire, il y a moins de surprises. Pourquoi un genou tourne ? Pourquoi on se fait choper ? C'est lorsque, justement, pour ne pas être prêt, on s'est fait surprendre par un aléa d'une situation technico-tactique. Mmh. La Confitech peut être une espèce de répétition des formes de corps, comme il y a le shadow ou le ghost en squash, c'est le ghost, et en badminton, c'est le shadow, et en boxe aussi. Et ben, voilà. Et tout comme ça. Et tu vas te retrouver à utiliser un medicine ball, un feedball, un step, une corde à sauter, parce que sur la corde à sauter, c'est forcément la pliométrie rythmique. Sur le feedball, c'est la proprioception ou l'accélération par l'usage du pneumatique. Le medicine ball, ça va être le contraste de charge dans l'explosif, voire même, enfin, on peut tellement faire de choses avec les outils. Ce n'est pas les outils qui comptent, c'est ce qu'on en fait.
Bien sûr. Et du coup, présence de Confitech toute l'année.
Oui.
Et
oui.
Le volume et l'intensité vont suivre une dynamique de charge classique.
Oui.
En revanche, les contenus vont être choisis au regard de ce que l'on cherche à faire, non pas forcément à la fin de la fin, mais déjà à certains instants clés de la saison.
Voilà, puisqu'on est dans préparation athlétique, bien sûr. Dans préparation, il y a cette idée de traiter en amont ce qui va être nécessaire pour le spécifique. Moi, ça me va bien. Avec quand même cette dimension que la Confitech peut être dans l'accompagnement de la performance de, entre deux matchs, entre deux combats, entre deux. Eh bien, la Confitech va pouvoir à la fois être du ressort de rééquilibrer ce qui n'a pas bien marché, aider à remettre du volume et se réaffûter. Voilà. En tout cas, on est vraiment à l'interface entre le physico-physique et le spécifique. J'ai envie de dire, un sprinter, Aurélien, il a besoin d'un statodynamique lourd à la presse oblique. Bam ! Pour moi, c'est du physico-physique. Ça a du sens, hein, c'est du statodynamique. Donc, prêt, bam ! Et puis, il y a le départ starting block. Et ben, la Confitech va être entre les deux. Peut-être départ à plat ventre sur un tapis de gym. Départ à plat ventre ou roulade départ. Ça va être, être retenu par un élastique accroché à quelque chose. Et tu es en position de démarrage et tu t'enchaînes des fentes avant comme ça. Bam, bam. Ça, c'est de la Confitech. Parce que ce qui a été bossé à la presse, en lourd de lourd en statodynamique, va être récupéré et formaté pour optimiser les départs starting block. Si on ne fait pas ça, le delta est tellement grand entre un statodynamique et un départ starting block qu'il va y avoir du temps avant de voir les ressources musculaires améliorées s'exprimer dans le départ starting block. C'est un liant.
Mais où est donc Ornica ?
Voilà. Voilà.
Écoute, Fred, un grand, grand merci pour cette leçon méthodologique. Je pense que ça ouvre énormément de fenêtres. Mmh. En attendant d'en lire plus, je vous rappelle qu'une version enrichie de ce podcast, que vous l'écoutiez sur n'importe laquelle des plateformes ou que vous le regardiez sur YouTube, existe sur mon site web, sur lequel Fred est toujours très généreux. Donc, vous aurez des contenus complémentaires à télécharger et à découvrir pour illustrer tout ce que nous nous sommes dit. En attendant de découvrir ce livre que j'attends avec impatience aux éditions Fortrainer, il y a un livre qui vient de sortir là, hein, il n'y a pas très longtemps, La motricité athlétique, approche transversale à l'usage des sports terrestres. Et si vous avez bien suivi ce qu'on s'est dit, évidemment, il y a une inspiration d'athlétisme, mais il y a surtout une inspiration de combat. N'hésitez pas à aller lire cet ouvrage. Merci Fred, et puis à très bientôt pour un prochain épisode.
À très bientôt. Bonne continuation, les collègues.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.